Oui, belle interprétation. C'est vous, cher Serge, qui avez fait cette demande d'entendre le Mon beau sapin. Je suis
Oui,
certaine que vous avez fait plaisir à bien des gens.
oui ben, on va parler un peu de sapin dans
Bon,
l'article,
ça
entre
donne-tu
autres.
bien?
Ça donne-tu bien un peu? Donc, un article de signé Manon Rivard dans la Nostalgie qui est paru il y a un mois. Alors, d'où viennent nos traditions? Un brin d'histoire. Du plus loin qu'on remonte, c'est-à-dire à l'époque de la colonisation de nos terres, les hommes et les femmes célébraient Noël. Il n'y avait cependant ni sapin, ni décorations scintillantes, et encore moins de multiples versions de Santa Claus. Toutefois, les ouailles se retrouvaient aux trois messes consécutives, c'est-à-dire deux en soirée et la traditionnelle à minuit.
Pas de sapin, mais beaucoup de messes.
Ouais. Et les temps ont changé, alors on nous offre un petit cours d'histoire en accéléré. On parle des messes de minuit ici, là, petite note personnelle. Moi, j'étais enfant de chœur, là, mais il me semble il y avait la messe de minuit, puis les deux messes après ça suivaient la messe de minuit. Eux, ils disent ici, les deux messes étaient avant, les messes basses avant la
Ah.
messe de minuit. Alors, mystère.
Bon, j'imagine
Mystère,
qu'il
mystère.
y avait deux façons de faire.
Ouais,
Je sais
probablement.
pas,
Ouais,
là.
ouais, ouais, ouais. Alors, en 1645, imaginez-vous, les colons français se réunirent dans une église de la ville de Québec pour assister à la messe de minuit et entonnèrent Chantons Noé, un vieux chant de Noël qu'ils avaient rapporté de France. Je n'ai pas retrouvé d'enregistrement qui aurait été fait récemment par une société de musique, là. Alors,
C'est pas
c'est
Chantons
évidemment.
Noël, c'est Chantons
Non,
Noé.
Chantons Noé,
Ah.
Noé, ouais. Il y avait également des crèches représentant la nativité dans les églises, même s'il faudra attendre des saisons et des décennies avant de les adopter dans nos maisons. Vers 1930, au moment où le sapin est très populaire, il ne fait aucun doute qu'on a besoin d'y placer une crèche en dessous, évidemment. Et c'est au cours des derniers siècles qu'on assiste au plus grand bouleversement des habitudes. Par exemple, on a toujours poussé la note pendant la période des fêtes, hein? Par exemple, vous avez si on pense, la chanson Les anges dans nos campagnes a été écrite quand même au 16e siècle. C'est assez vieux. Minuit chrétien, 2 siècles plus tard. Et l'air, il est né le divin enfant, ben c'est entre les deux, entre le minuit chrétien et les anges dans nos campagnes. Les premières cartes de Noël, c'est une initiative venue d'Angleterre, figurez-vous.
Ah ouais.
Oui, datant de la fin du 19e siècle. D'ailleurs, les enfants dessinent aujourd'hui un Père Noël sur les cartes qu'on envoie ensuite à la famille, mais à cette époque-là, le véritable héros de la fête, c'était toujours le petit Jésus, évidemment. Ce dernier sera détrôné des décennies plus tard par le Père Noël. Quant au premier majestueux sapin vert illuminé par des ampoules électriques, c'est à Westmount qu'on a pu en admirer un pour la première fois, et ce, dès 1896.
Westmount, là, tout près d'ici, là.
Oui, tout près d'ici, à côté de Montréal. Du côté de Québec, c'est plutôt en 1910 qu'on a vu des sapins illuminés par l'électricité placés à l'extérieur du grand magasin Paquet. Et ces réalisations ont d'ailleurs été rendues possibles grâce à l'invention d'un certain Thomas Edison en 1879, dont l'un des associés aura l'idée d'allumer une guirlande d'ampoules rouges, blanches et bleues autour de son sapin, 2 ans plus tard. Il faudra toutefois attendre au moins 50 autres années avant que cette coutume se répande dans toutes les maisons. Mais attention, pendant la Seconde Guerre mondiale, on doit économiser l'électricité et donc éteindre les ampoules. Quant aux glaçons en aluminium, ceux que peut-être certains de vos proches récupèrent encore d'une année à l'autre, ils
C'est
sont.
bien de faire ça.
Oui, absolument. Ils datent également de cette époque. Concernant le sapin de Noël, qui symbolisait la vie éternelle, ses origines remonteraient au Moyen Âge, au cours d'une pièce de théâtre. Et la coutume d'en faire l'arbre majestueux des salons provient d'Alsace au 15e siècle. Mais il faudra attendre le 19e siècle pour que la plupart des familles bourgeoises adoptent à leur tour cette tradition, d'abord avec des petits arbres, dit-on, installés sur une table et décorés de bonbons, de
Toujours
fruits.
naturel.
Oui. Toujours décorés de bonbons, de fleurs de papier, de rubans ou de guirlandes.
Oui.
Oui. Vers 1870, apparurent les bonbonnières ou cornets remplis de sucreries et de petits présents, miam miam.
Comme vous avez apporté ce matin.
Oui. Beaucoup d'ornements étaient alors des contenants à bonbons. Les gens fabriquaient leurs cornets à la maison en suivant les indications publiées dans les revues. D'ailleurs, la production manufacturière coïncide avec cette période et donne lieu à des articles fabriqués en quantité et en tout genre. Les boules de Noël sont vendues en boîte, mais on les achète surtout à l'unité. Et les motifs les plus populaires sont les fruits, les cloches, les oiseaux, les cœurs et même les théières et les maisons.
Ah oui?
Oui.
Ah, les formes ou les dessins qu'on voyait sur les boules, les fruits, les maisons, les théières?
Oui, ben, il y avait des maisons. Moi, j'avais des petites, il y avait des petites maisons dans mon sapin de Noël à la maison.
Qui faisaient office de boules.
Oui, oui, oui. Et ça, c'est selon les auteurs Sylvie Blais et Pierre Lahoune dans leur livre « La fête de Noël au Québec, les éditions de l'Homme ». Après 1900, les familles aisées n'achetèrent qu'un ou deux ornements par année. À la suite de la Première Guerre mondiale, la plupart des familles vont adopter cette coutume et monter le sapin au centre du salon pendant que les enfants sont endormis avant de les réveiller pour les cadeaux et le buffet.
Au centre du salon.
Au centre du salon. Mm-hmm. Et pourquoi finalement a-t-on décidé que le jour de Noël serait célébré le 25e jour de décembre? En conférence, l'historien Martial Tessier rappelle que c'est en fait une décision du pape Libère qui a statué que c'était le jour de la naissance du Christ. Toutefois, Noël n'aurait cependant peut-être pas du tout la même importance aujourd'hui. En effet, durant la guerre de 1914-18, tout aurait pu changer, comme nous explique Luc Dupont, un professeur du département de communication de l'Université d'Ottawa. Alors, si on se replace à cette époque-là, ces années-là, le jouet le plus populaire était l'érector, l'équivalent du mécano. Alors, un jeu en métal qui permettait de construire des édifices, des voitures, des animaux, etc. Or, évidemment, en pleine période de guerre, comme on construisait aussi les armes avec du métal, on a donc demandé aux entreprises de jouets de convertir leurs usines pour fabriquer des armes plutôt que des jouets. On leur a demandé d'annuler Noël, carrément. Alors, un des entrepreneurs, Alfred Carlton Gilbert, est allé voir le gouvernement américain pour lui dire qu'on ne pouvait pas faire ça, que s'il n'y avait pas de festivités de Noël, cela allait briser le moral des enfants et qu'en faisant ça, on briserait aussi le moral des parents et même des soldats qui étaient à la guerre. Qui sait ce qui se serait passé si cet homme n'avait pas réussi à faire entendre sa cause? Aurions-nous la fête telle que nous la connaissons maintenant si elle avait été annulée au siècle dernier? Heureusement, les enfants ont pu recevoir leurs jouets favoris aux fêtes puisque le gouvernement a choisi d'investir dans la construction de nouvelles usines spécialisées de compagnies qui fabriquaient déjà des armes à feu, ce qui a permis d'augmenter la production sans nuire à celle de la fabrication des jouets. Et elles sont d'ailleurs devenues, ces compagnies-là, les géants qu'on connaît aujourd'hui. Côté religion, rappelons qu'au début du 20e siècle, la messe représente toujours un élément clé des festivités. À une certaine époque même, la messe de minuit est si courue qu'on devait réserver une place en payant 50 cents. Je ne sais pas si vous avez connu ça, vous autres.
Non.
Non, ouais.
Non, vous?
Dans les années, ouais, 50, 60, oui, okay. Il fallait...
50, on n'était pas nés. 60, j'étais un bébé.
Les retardataires risquaient donc de se retrouver au sous-sol de l'église et de manquer une grande partie de celle-ci. On notera une transition importante au cours des années 40 à 60, alors que la religion connaît un grand essoufflement. Finalement, c'est à partir du 19e siècle qu'on commence à recevoir des étrennes au jour de l'an.
Les étrennes.
Remarquez que chacun possède sa petite histoire en lien avec cette fête. Pour l'un, c'est faire une véritable tournée de la parenté, chez le grand-père et la grand-mère, ensuite chez l'oncle et la tante, et ainsi de suite.
Ils allaient en calèche?
En calèche, oui, avec le cheval. Ou les chevaux, on avait des attelages à deux chevaux des fois. Pour l'autre, la famille se réunissait plutôt chez les grands-parents, où la musique faisait vibrer les murs et les cœurs. Puis, comme nous le rappelle l'historien Marcel Tessier, pour d'autres encore, c'était ouvrir la porte toute grande, grande à la découverte. Le jour de l'an, il y avait toujours une place libre à la table, précise-t-il, pour accueillir le conteur qui racontait ce qui se passait dans le rang, dans le village et dans la région. un peu stallée. La commère du coin, oui. Il y a autant de souvenirs, finalement, qu'il y a de famille. Je pense que chacun a tous nos petits souvenirs de Noël.
Mais oui.
En terminant, une petite question de Finette. En 1940, on doit débourser combien pour avoir un sapin de Noël naturel?
Alors aujourd'hui, ça coûte quoi? Entre 50 et 100 et même plus? En 1940, je dirais 10 $?
Mathieu, risquez-vous un montant?
Je veux dire 3 piastres.
3 piastres? Mathieu est le plus près. C'était 1 $.
Oh, OK. J'ai failli dire plus bas, mais enfin, faut que je sois bonne joueuse. J'ai dit 10 $. 1 $, c'était quand même bon, mais en 1940, hein, tout est relatif.
Ouais, ouais. Il y a encore du temps?
Bien, on pourrait s'arrêter le temps d'une chanson de Noël, puis reprendre après.
Oui, parce que moi, j'aurais la légende de Sorel Tracy.
D'accord, on écoute ça après ceci. Serge, on parle toujours avec vous du temps des fêtes, du sapin de Noël en particulier, et vous avez une légende en lien avec le sapin, une légende qui se déroule à Sorel-Tracy?
À Sorel-Tracy, oui, oui. Alors, une dame du nom de Suzanne Bergman nous raconte l'histoire du premier arbre coupé en sol québécois. C'est le général, attention, Friedrich Adolf Radisfeld.
Aïe, aïe.
Bon. Fut capturé. C'est un Allemand au service des Britanniques.
Ah oui, c'est un Allemand. Je pensais que c'était quelqu'un du lac Saint-Jean.
Ah oui. Il fut capturé et emprisonné pendant la guerre de l'indépendance américaine avec sa famille. Il a été incarcéré pendant 4 ans. Et il a finalement été libéré lorsque la paix fut signée vers 1779. Et pour souligner le retour à Sorel, au Québec, l'épouse du général, attention, la baronne Frédéric Charlotte Louise von Massow.
Est-ce que c'est bien prononcé, Mathieu? Lui qui parle très bien allemand.
Il faudrait que je le lise, mais oui, ça ressemble à de l'allemand.
Ouais, d'accord.
Alors, elle demanda à l'un de ses serviteurs d'aller chercher dans le bois un beau sapin pour la fête de Noël. Et selon les coutumes allemandes, elle plaça cet arbre dans un coin de la salle à manger, en décora les branches avec des fruits divers et des chandelles allumées et célébra ainsi la paix et la liberté retrouvées. Pour les Allemands, l'arbre revêtait un caractère à la fois médicinal et magique, puisqu'il signifiait l'endroit où se réfugiaient les dieux dans les forêts sacrées. On pourrait donc dire qu'il y a maintenant 200 ans que nos ancêtres le placent au cœur des célébrations, si ce n'était que cette histoire ne fait pas l'unanimité. En effet, l'historien Mathieu Pontbriand précise que ce fait historique s'avérerait plutôt une légende, car aucune information ne permet de l'étayer, bien que la baronne ait légué une vaste documentation à ce sujet.
Ah bon, alors il y a de la documentation, mais on n'est pas sûr que ça soit vrai.
Certain, oui.
L'histoire inventée ou pas, en tout cas. Ça...
Moi, je l'avais déjà lu, puis ça semblait assez véridique.
Oui.
L'article que j'avais lu, je pense que j'en avais parlé ici il y a peut-être 2-3 ans à peu près, là.
Je ne te crée pas.
Oui, là, c'est une autre version. Alors.
Mais merci Serge, merci de votre présence et vous serez la semaine prochaine avec nous?
Je serai là en chair et en os.
Parfait, à bientôt.
Bye.